Place publique. La maltraitance concernerait 300 000 personnes âgées en Suisse, selon une estimation. Des violences commises surtout à la maison, mais aussi en institution. Des organisations de prévention ont lancé hier une permanence nationale avec une ligne téléphonique et un site internet. Face à l'évolution du climat, avec les sécheresses et les inondations, on se pose la question de l'avenir du pays des Trois Lacs, qui reste le plus important potager de Suisse. Une association est créée ce vendredi pour lancer la réflexion et parmi les pistes évoquées, une troisième correction des eaux du Jura. Et enfin, Didier Burkhalter, qui a quitté le pouvoir pour la littérature. Depuis une année et demie, l'ancien conseiller fédéral a renoncé à toute fonction publique ou honorifique pour s'adonner à sa nouvelle passion d'écrivain. On vous propose tout à l'heure un entretien avec le Neuchâtelois. Il nous parle de sa nouvelle vie d'auteur et de son dernier roman, Terre minée, qui vient de paraître en librairie.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Selon une estimation en Suisse, 300 000 personnes âgées seraient victimes de violences, de la maltraitance commise surtout à la maison par un membre de la famille ou par le voisinage, mais aussi en institution. Une permanence nationale de conseil vient de voir le jour. Son but, venir en aide aux victimes et à leurs proches, mais aussi prévenir les actes de violence en formant notamment le personnel soignant. Les personnes concernées peuvent téléphoner au 0848 00 13 13 ou se rendre sur le site web vieillir-sans-violence-au-singulier.ch. L'initiative est portée par trois organisations suisses, dont Alter Ego en Suisse romande. Et nous recevons sa présidente, la présidente du comité d'Alter Ego, Delphine Roulet-Schwab. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes aussi professeur ordinaire à la Haute École de Santé de la Source à Lausanne. Alors, pour mieux comprendre le phénomène, à partir de quand on parle de maltraitance ?
Alors, on parle de maltraitance à partir du moment où il y a atteinte à l'intégrité de la personne. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan psychologique, sur le plan financier. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir des conséquences assez importantes pour qu'on parle de maltraitance.
Et des cas typiques. Par exemple,
on constate beaucoup de maltraitance financière, donc par exemple la famille qui ne veut pas que l'héritage soit dilapidé, entre guillemets, donc qui ne va pas investir pour le confort de la personne âgée, qui va par exemple lui dire « Ah non, mais tu n'as pas besoin d'aller chez le coiffeur, de toute manière, personne ne te rend visite », des choses comme ça. De la maltraitance psychologique aussi beaucoup, avec de l'infantilisation, des humiliations, parfois des menaces et du chantage.
Des négligences aussi.
Des négligences, absolument. C'est une forme de maltraitance qui est beaucoup plus subtile, plus difficile à détecter. C'est le fait de ne pas répondre aux besoins d'une personne âgée dépendante. Ça peut prendre différentes formes, concerner la nourriture, le logement, les besoins affectifs. Et c'est quelque chose d'assez insidieux.
Alors, il y a de la maltraitance physique, bien entendu. Mais cette maltraitance, elle n'est pas forcément toujours faite de manière consciente.
Non, absolument. La maltraitance, elle peut être inconsciente, elle peut être parfois même motivée par de bonnes intentions. C'est ça qui la rend parfois difficile à détecter, mais aussi à prévenir en amont, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils font du mal à la personne, qu'ils portent atteinte à son intégrité. Ça peut être le fait d'imposer un régime très strict, d'obliger la personne à marcher alors qu'elle n'en a plus la capacité, plus la volonté. Donc en fait, de considérer que soi-même, on sait mieux que la personne ce qui est bon pour elle.
Et toujours au chapitre du constat, avant de parler solutions, 8 cas sur 10 concernent le domicile.
Absolument. Effectivement, la maltraitance, elle concerne d'abord les personnes âgées à domicile. Il faut dire que la grande majorité des personnes âgées en Suisse vivent à domicile. Et puis, c'est très souvent de la maltraitance qui provient de la part d'un proche, un conjoint, un enfant adulte, parfois quelqu'un du voisinage qui apporte de l'aide et qui, en même temps, profite quelque part de la situation.
Alors, à ce jour, pas de statistiques, mais des estimations basées sur des études.
Oui, absolument. Des estimations qui sont basées sur des études européennes et qui montrent que 20% des personnes âgées seraient concernées par la maltraitance, 25% en ce qui concerne les personnes très dépendantes d'aide et de soins.
Et on a parlé de ces maltraitances à domicile. Évidemment que les institutions ne sont pas épargnées. D'ailleurs, ce sont les cas les plus médiatisés.
Oui, effectivement. On entend surtout parler de la maltraitance en institution et surtout des cas les plus impressionnants. Des maltraitances souvent physiques. Il faut savoir qu'il y a aussi de la maltraitance beaucoup plus ordinaire, à bas bruit, des petites humiliations au quotidien, de l'infantilisation, faire des commentaires sur, je sais pas, l'odeur quand la personne est allée aux toilettes ou des choses comme ça. Et ces maltraitances-là, on en parle évidemment très peu.
Alors, vous lancez cette permanence nationale de conseil, on l'a dit, un numéro de téléphone et un site web, un service surtout destiné à l'entourage, hein, soit les proches, les professionnels aussi qui s'occupent de ces personnes âgées.
Oui, finalement, toute personne qui est confrontée à une situation de maltraitance, qu'elle ait une certitude par rapport au fait qu'il y a de la maltraitance ou qu'elle ait des doutes, c'est très souvent les proches qui vont appeler ou quelqu'un de l'entourage qui se fait du souci. Ça peut être aussi parfois la personne âgée elle-même qui ne sait pas à qui s'adresser. Et on lance cette permanence parce qu'on fait le constat que les gens ne savent finalement pas à qui s'adresser. Il existe beaucoup de ressources, mais elles sont peu sollicitées parce que peu connues.
Mais ces personnes âgées, par définition, sont des personnes vulnérables. Il y a un grand tabou, une peur peut-être d'une vengeance. Il y a aussi parfois un manque de discernement dû à des pathologies à cet âge. Donc pas facile pour une personne âgée de téléphoner forcément.
Oui, effectivement, d'autant plus si ça concerne un membre de sa famille, c'est difficile de porter plainte par exemple à la police contre un membre de sa famille, c'est difficile de révéler ce qui se passe dans l'intimité de la famille, il y a des loyautés, il y a parfois des règlements de compte, donc c'est souvent difficile pour les personnes qui sont un peu coincées dans cette situation, donc d'où l'importance que les proches puissent être alertés et sachent à qui s'adresser.
Parce que sinon, une grande majorité des cas dont on parle passerait en dehors de vos radars.
Je pense que c'est déjà le cas. Les mailles du filet sont malheureusement encore assez grandes, mais je pense que c'est en multipliant l'information qu'on arrive à ce que ces mailles se rétrécissent et que tout le monde, finalement, dans la société, puisse être vigilant à ces situations et sache quoi faire s'il y est confronté.
Alors, il n'y a pas de numéro d'urgence dans cette permanence, ou si vous pouvez agir vite, quels sont les objectifs exacts de cette permanence de conseil?
Il y a un objectif d'écoute, parce que très souvent, les gens ont besoin de parler de ce qu'ils vivent, de parler de ce qu'ils ont observé, d'être rassurés par rapport au fait qu'ils ont agi de la bonne manière. Et puis, il y a un objectif d'orientation, voire d'accompagnement dans certaines situations, qui peut se faire sur le moment parfois, mais des fois dans un deuxième temps où on rappelle la personne et on va lui donner des conseils précis par rapport au canton dans lequel elle se trouve, au type de situation, pour pouvoir lui donner la possibilité d'agir, mais on ne va jamais agir à la place de la personne.
Et c'est un rappel important, ce genre d'information qu'on est en train de donner en ce moment, pour les auditeurs concernés qui nous écoutent. Vous observez, dès qu'il y a communication, un pic d'appel.
Oui, c'est quelque chose qu'on observe très clairement quand on a une intervention dans les médias, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les journaux. On a vraiment une recrudescence des situations qui sont adressées à la permanence. Donc on profite chaque fois de ces opportunités pour pouvoir transmettre cette information parce qu'on voit que c'est comme ça qu'elle se diffuse vraiment jusque dans les foyers.
Alors le personnel soignant est bien sûr formé, sensibilisé à cette problématique de la maltraitance, même s'il y a encore des cas. Que dire des proches ? On vient de le remarquer, ce sont eux qui sont en première ligne et souvent concernés.
Effectivement, tout le maintien à domicile repose sur les proches. Souvent, ils ont peu d'informations par rapport au relais dont ils pourraient profiter et peu d'informations finalement par rapport à... Malgré leurs bonnes intentions, qu'est-ce qui peut constituer de la maltraitance? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et comment est-ce qu'ils peuvent demander de l'aide dans ces situations? Demander de l'aide précisément, mais parfois aussi simplement du relais. Savoir qu'il existe des soins à domicile, qu'il existe des aides financières pour en bénéficier, et toutes ces informations, il faut qu'ils puissent y accéder.
Est-ce qu'il existe d'ailleurs déjà des formations destinées à ces proches?
Alors, il existe des formations, le canton de Vaud est assez précurseur par rapport à ça, puisqu'il y a tout un programme cantonal de soutien aux proches aidants, et puis différentes organisations commencent à mettre en place des formations, et j'ai vu le jour par exemple que l'école Club Migros propose une formation pour les proches aidants, donc on voit que c'est quelque chose qui se répand.
Vous êtes neuchâteloise, mais vous travaillez dans le canton de Vaud, vous avez cité l'exemple vaudois, que dire de la situation en Romandie? Est-ce que précisément il y a des cantons plus avancés que d'autres, ou est-ce que ce problème, selon vous, est suffisamment pris au sérieux?
Je pense que chaque canton s'en préoccupe peut-être différemment, avec des moyens différents. C'est vrai que le canton de Vaud est souvent cité en exemple par rapport à ça, et je pense qu'il a une longueur d'avance. Mais je pense que tous les cantons commencent vraiment à se préoccuper de cette question.
Delphine Roulet-Schwab, merci infiniment d'être venue dans Place Publique, nous parler donc de cette nouvelle permanence nationale de conseil qui vient de voir le jour, avec un numéro de téléphone, on va le rappeler, il sera sur internet tout à l'heure, 0848 00 13 13, ou sinon le site internet, le site web Vieillir sans violence. .ch, une plateforme, on imagine, où on trouve des conseils et aussi des messages, des contacts où s'adresser.
Exactement.
Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci à vous.
Place publique. Gabriel Devecq.
L'avenir du pays des Trois Lacs sera désormais discuté au sein d'une association. Elle sera créée officiellement ce vendredi et son but, c'est de proposer des solutions d'avenir pour le plus grand potager de Suisse. En effet, cette zone agricole d'importance nationale est menacée par la sécheresse et des inondations notamment. Voilà pourquoi certains imaginent une troisième correction des eaux du Jura par exemple. Pour en parler, nous recevons Marcus Hitt, député PLR au Grand Conseil Fribourgeois. Bonsoir.
Bonsoir.
Et surtout, futur directeur de l'association Avenir Pays des Trois Lacs, fondé officiellement vendredi. Alors peut-être que certains de nos auditeurs s'en souviennent, mais tout a officiellement démarré au mois de novembre dernier lors d'une Landsgemeinde, c'est pas courant, organisée à Mora. Et le but, c'était d'intéresser un maximum de personnes à l'avenir de cette région, une région agricole et naturelle. Ils sont des centaines à avoir répondu présent.
Ils ont même plus qu'une centaine d'avoir répondu. Et puis effectivement, ça a amené cette réflexion et puis la fin ou le début, c'est maintenant c'est la création de cette association.
Qu'on comprenne bien qui s'intéresse, qui a intérêt, qui est directement concerné par l'avenir du pays des Trois Lacs.
Je dirais nous tous, quoi. Nous tous qui habitons cette belle région, mais bien évidemment principalement les agriculteurs, les utilisateurs du sol, mais également les milieux écologiques, mais aussi les milieux des loisirs, des sports. C'est pour ça que je dis tout le monde, presque.
Et alors, on parle pas seulement du Zeeland, hein, dans la région dans laquelle nous sommes maintenant, mais aussi de la plaine d'Orbe ou encore de la Broye.
Effectivement, on a justement créé cette région qui est beaucoup plus grande, la région des Trois Lacs. Souvent, on parle uniquement de la région entre les Trois Lacs, mais nous, on va au-delà. Donc, c'est de Orbe jusqu'à Soleure. Vraiment un paysage très large, créé à l'époque par le glacier de la Ronde.
Et l'idée maîtresse, c'est de préserver la fertilité du grand potager de Suisse, menacé, on l'a dit, par la sécheresse et les inondations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, mais pas uniquement. Justement, je pense, on parle souvent de la troisième correction des eaux du Jura. On peut l'appeler comme ça, mais je pense que notre idée ou notre but est justement d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est pas uniquement de faire des corrections pour que ça reste le potager suisse, mais c'est effectivement de faire des réflexions au-delà de cela, parce que toute correction, toute modification que l'être humain fait a un impact aussi sur l'environnement, sur plein de choses. Et puis c'est justement cette réflexion-là qu'on aimerait amener pour avoir tout le monde autour d'une table pour réfléchir.
Alors ce n'est pas qu'une possible troisième correction des eaux du Jura, il y a d'autres enjeux, on l'a bien compris. Par contre, il y a quand même derrière cette plateforme un projet à 1 milliard, en tout cas c'est une idée de viser à 1 milliard sur les 30 prochaines années. C'est concret.
C'est concret d'une manière estimative actuellement, c'est un montant qu'on a chiffré plein de projets, mais ça, c'est pas uniquement des projets qui concernent l'eau, mais c'est aussi des projets qui concernent le sol, mais c'est aussi des projets qui concernent la renaturalisation, par exemple, ou d'autres aspects écologiques.
Mais on imagine que pour pomper l'eau du lac de Neuchâtel, par exemple, ou de rivières comme l'Ar ou la Sarine, c'est ça qui va coûter de l'argent.
Absolument, je pense que c'est la distribution de ces eaux qui sont, en fin de compte, qui sont là, en suffisance. La problématique qu'on a aujourd'hui, il y a des moments où on en a trop et des moments qu'on en a pas assez, mais on en a presque jamais, des moments où on en a bien. Donc il y a aussi une question de la nappe phréatique, par exemple, qu'il faudra réfléchir. Est-ce qu'il faudra essayer de la rehausser de nouveau? Parce qu'il y a aussi une question de l'élimination de la tourbe qui provoque même du CO2, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut, quoi.
Alors, pomper de l'eau, rehausser peut-être la nappe phréatique, mais aussi, vous l'avez dit rapidement, mais on va y revenir, mieux drainer les surfaces.
Absolument, ça c'est, je pense, ça que le citoyen, il voit partout que ces inondations, surtout quand on a des événements de plus en plus fréquents, de trop d'eau, de trop de pluie.
Alors, on voit bien l'intérêt pour les agriculteurs et bien sûr pour tous les consommateurs de faire ces travaux, de pouvoir assurer des cultures. Mais les associations pour l'environnement, elles, préconisent une approche plus respectueuse des ressources et finalement disent qu'il faut en profiter pour arrêter les cultures intensives ou changer un peu de culture, viser davantage le long terme. On est en plein débat sur le climat, en fait.
Absolument. Je pense que c'est là qu'il faudra effectivement essayer de faire l'amalgame de toutes les idées. Bien évidemment, la problématique, tout le monde la voit. Les solutions sont divergentes. Et puis, je pense que c'est ça qui est important, de mettre une fois tous sur la table pour que les uns et les autres commencent à comprendre aussi la vision de l'autre pour, effectivement, après, essayer de trouver des solutions communes.
Mais cette association qui voit le jour vendredi, elle réunit des gens du même avis, qui sont tous d'accord sur un objectif? Ou est-ce qu'il y a déjà des dissensions fondamentales? On imagine qu'avec toutes les communes impliquées, des 5 cantons dont on parle, tout le monde n'a pas forcément la même vision.
Absolument, et puis pas tout le monde est dans la même situation, parce qu'effectivement le Grand Marais, connu justement comme potager suisse, elle est plus ou moins bien irrigué, et puis il y a pas mal de possibilités d'arrosement. Par contre, la plaine de l'Orbe, elle est dans une situation complètement différente. Donc effectivement, et puis ça c'était la volonté, qu'il y a justement des avis divergentes, mais c'est justement ça la richesse, je pense, de se réunir, et puis de voir quels sont les problèmes, où sont les problèmes, et puis d'essayer de trouver une solution globale afin qu'on puisse aussi après demander un soutien, une aide de la Confédération.
Et ça s'annonce quand même complexe de trouver cette solution globale au vu des différentes fractions en présence, entre ceux qui ne sont pas tous logés à la même enseigne, ceux qui penchent pour l'environnement et d'autres davantage pour une agriculture intensive. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que ce projet, cette vision soit bloquée d'entrée de jeu, en fait, mort-née ?
Non, je pense pour l'instant on a une bonne ambiance et puis aussi une bonne échange, même avec des gens qui peut-être aujourd'hui n'adhèrent pas encore. Mais je viendrai volontiers d'ici une année vous raconter tout ce qu'on a pu faire, où elles sont encore les problèmes. Mais pour le moment, j'ai vraiment bon espoir parce que la volonté de faire quelque chose, on a vu qu'il y a une problématique climatique, donc tout le monde est d'accord de faire quelque chose. Peut-être pas tout le monde est d'accord de par quelle manière il faut le faire, mais tout le monde voit qu'il faut faire quelque chose.
Alors par exemple, les associations pour l'environnement, on en a parlé, elles ne font pas partie de cette association, elles ne se sont pas inscrites, elles mènent une réflexion parallèle. Est-ce que malgré tout, le dialogue continue ?
Absolument, on est toujours en dialogue, même aujourd'hui encore j'étais en contact avec le WWF Fribourg, donc ils mènent cette réflexion et puis je suis très conscient qu'ils vont revenir à la table une fois qu'ils ont fait leur réflexion dans leur camp, et puis nous on est tout à fait ouverts pour qu'ils prennent part de cette réflexion. C'est très important qu'eux ils amènent leur vision des choses et puis les autres ils amènent leur vision des choses et puis après on essaye de trouver la quadrature du cercle.
Alors on a parlé de ces problèmes d'eau, vous avez mentionné aussi l'importance de préserver la nature et l'environnement dans cette zone qui est somme toute très étendue. Un exemple par exemple d'enjeux liés à la préservation de la nature dans cette vision que vous voulez porter avec cette association?
Je pense qu'il y a toutes les questions de la nature qui doivent être posées. Hein. Il y a aussi l'agriculture en fin de compte qui a besoin des insectes, des animaux. Donc il y a aussi une question des agricultures à réfléchir, comment on veut produire en futur. Je pense là, il y a aussi des réflexions qui se sont faites. Et puis, par cela, je pense qu'on a un bon terrain aujourd'hui. Ça a été peut-être pas encore la même chose il y a 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui, je pense qu'on a un bon terrain d'une compréhension réciproque, et puis avec cela, on peut construire quelque chose.
Il y a des cultures qui posent apparemment un problème, ça peut peut-être faire partie aussi des enjeux liés à la nature. C'est la culture du tabac et de la betterave hein, qui sont pointées du doigt. Cette région est connue pour ça, notamment dans la Broye. Est-ce que là, les esprits sont prêts à changer de paradigme ?
Oui, je pense que oui, mais bien évidemment, je pense aussi que les réflexions doivent être ouvertes par rapport à quelles sont les cultures qu'il faudra cultiver ici. Je pense justement qu'il y a des institutions écologiques qui prônent qu'il faudra mettre du riz, parce qu'effectivement, il y a plein d'inondations, mais ça, c'est pas si facile que ça non plus, parce qu'il faut niveler tous ces terrains pour pouvoir produire du riz. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois qu'on commence à tourner un petit peu en roue, il y a d'un autre côté quelque chose qui influence. Donc,
mais l'image c'est pas est si évocatrice hein, d'imaginer des rizières.
Absolument, il y a même dans un village bernoise des tests qui sont en train de se faire.
Donc c'est parmi les pistes, donc on voit que ça peut être très large. Vous parlez de nature, vous parlez d'agriculture, vous parlez aussi de loisirs. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ben, je pense aussi que le Pays des Trois Lacs, déjà au niveau touristique, c'est une marque qu'on développe, c'est une marque qu'on vend vers l'étranger, mais aussi à l'intérieur de notre pays. Donc il y a aussi tous les chemins pédestres, tous les chemins pour cyclables. Ça c'est aussi des trucs à réfléchir, afin que tous passe l'un à côté de l'autre, ce qui est déjà très difficile, mais je pense que c'est aussi important que eux, ils ont aussi leur rôle à jouer, ils ont aussi leur vision à apporter.
Donc, vous parlez de pistes cyclables, d'autres exemples?
Il y a aussi tout ce qui se passe sur les lacs, bien évidemment, la voile, aussi le sport nautique. Développer tout ça, au moins savoir et connaître les visions de leur part.
Est-ce que la question, par exemple, des cormorans, hein, qui inquiète beaucoup les pêcheurs, fait partie aussi des doléances que vous avez pu entendre?
Absolument. Il y a bien évidemment déjà aussi les associations des pêcheurs qui nous ont abordés. Enfin, il y a quelqu'un qui parle un petit peu de l'ensemble de cette problématique. Mais bien alors, là, il y a une spécificité. Eux, ils n'aiment pas trop le cormoran. BirdLife Suisse, ils voient ça un petit peu différent. L'agriculture, il se dit, bon, moi, ça ne me gêne pas trop, mais si on discute de cette problématique-là, et puis tout le monde est autour de la table, c'est quand même important parce que ça fait, je dirais, ça amène une certaine compréhension réciproque de tout le monde, de toutes les problématiques, après avoir qui résout quel problème.
Marcus Hitt, on a l'impression que vous êtes l'homme idéal pour diriger cette association. Vous êtes parfaitement bilingue, vous nous en faites la démonstration. Vous avez présidé l'année dernière le Grand Conseil fribourgeois, vous avez dû aussi trouver le consensus d'une certaine manière. Est-ce que vous réjouissez de ce nouveau rôle ?
Bien évidemment, c'est pour ça que je me suis lancé il y a, je dirais, 5 ou 6 mois. Et puis j'ai fait avec cette Landsgemeinde où je voulais justement élargir le cadre des réflexions. Et puis je pense depuis que je fais la politique, et puis de plus en plus, j'ai remarqué que si on arrive à faire comprendre, je dirais pas l'adversaire parce que c'est pas le bon terme, mais l'opposant, si on arrive à faire comprendre sa problématique et puis que l'autre, il a la volonté de comprendre, je pense avec ça, on arrive à résoudre pas mal de problèmes au lieu de rester chacun dans son coin et puis personne qui bouge.
Une leçon de consensus helvétique. Dernière question, Marcus Hitt, cette association, elle va travailler comment ? Quel calendrier vous vous fixez ? À partir de quand ? Alors vous avez dit, je reviens dans une année pour vous en parler, mais c'est quoi la prochaine étape ? Quand est-ce qu'on aura du concret par rapport au projet ?
Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le comité qu'on va élire également le vendredi va se mettre en place, va définir encore beaucoup plus clairement les buts, beaucoup plus clair, je veux dire, par rapport au statut. Et puis après, il y aura probablement différentes commissions qui vont déjà se mettre en place pour travailler. Et puis il y a une première assemblée ordinaire prévue en novembre de cette année. Donc à ce moment-là, on aimerait bien déjà pouvoir présenter les travaux faits ou au minimum un programme de travail pour l'année 2020.
Donc une grande démarche participative, on se met au travail et des propositions, peut-être premières propositions, qui sortiront du chapeau au mois de novembre et qui vivront leur vie jusqu'au Conseil fédéral, la Confédération et les instances politiques évidemment. Marcus Hitt, merci beaucoup d'être venu dans Place Publique. On rappelle que vous allez diriger cette association qui voit le jour vendredi, association Avenir Pays des Trois Lacs. On vous souhaite une bonne soirée et plein succès.
Merci, bonne soirée.
Place publique.
Ils préfèrent écrire des livres plutôt que de siéger dans des conseils d'administration ou d'occuper des fonctions illustres dans des organismes internationaux. L'ancien conseiller fédéral neuchâtelois Didier Burkhalter est désormais écrivain, un auteur très prolifique puisqu'il a publié pas moins de 4 ouvrages en 1 an et demi. Le dernier en date vient de paraître en librairie. Il s'intitule « Terre minée ». Il s'agit du 2e tome d'une trilogie romanesque, une saga familiale à travers l'histoire du XXe siècle jusqu'à nos jours. Pour parler de cet ouvrage, ainsi que de sa nouvelle vie d'auteur, nous vous proposons un entretien avec Didier Burkhalter, un entretien enregistré ce matin dans nos studios. Nous lui avons d'abord demandé d'où lui venait cette urgence d'écrire.
Ce n'est pas vraiment une urgence, c'est une envie. Et c'est une envie qui a été liée tout d'abord à presque un trop-plein, une série d'émotions très fortes dans le cadre en particulier des activités dans le monde entier en tant que ministre des Affaires étrangères. Et puis maintenant, cette passion en fait pour les romans historiques depuis le roman Mère porteuse, suivi maintenant de ces derniers jours de la sortie de Terminé. J'ai vraiment envie d'aller au bout d'ailleurs de cette histoire avec une trilogie, avec un 3e roman. Après la mer, la terre, ce sera peut-être le ciel, on verra. En tout cas, c'est comme ça que je le vois dans ma tête et dans mon cœur pour le moment. Mais c'est une passion avant tout.
Mais pourquoi avoir choisi la fiction et pas un récit à la première personne ?
Bon, les récits à la première personne, j'ai plus trop envie de toujours parler de moi-même. J'aimerais vraiment parler de l'histoire et de sa résonance dans notre époque et pour notre futur. Ça m'intéresse le plus. Notre condition humaine, notre vie à tous. J'ai pas envie de parler trop de moi, même si évidemment les personnages qui sortent dans les romans, c'est quelque chose que je ressens très fortement en moi-même.
On vous a décrit comme une personnalité cultivant la discrétion, pudique, voire même impénétrable. Et votre plume dévoile une toute autre facette de vous avec une écriture foisonnante. Comment l'expliquer ?
Ah, mais j'aime bien la liberté, je pense que ça vient de là. J'aime aussi décrire ce qui est tout à coup devant moi. Les images, en fait, viennent comme si c'était un film. Et je les décris, je les mets sur le papier. Et forcément qu'elles prennent toute une série de couleurs, donc toute une série de mots. En plus, les mots, c'est merveilleux. Et surtout en français, c'est plein de nuances, plein de possibilités de montrer la complexité des choses.
Et d'ailleurs, vous l'avez livré à nos confrères de l'illustrer dans un portrait publié aujourd'hui, que ces images-là, vous les verriez bien à l'écran. écran. Ça veut dire quoi? Après Didier Burkhalter, conseiller fédéral, auteur, ce sera Didier Burkhalter, le réalisateur?
C'est un rêve, hein. Faut pas croire que c'est comme ça un projet déjà tout fait. Mais c'est vrai que si je pouvais, d'un coup de baguette magique, décider ce dont seront faites les prochaines années, et si tout allait bien, bah j'aimerais bien en effet faire un film, pas forcément le faire moi-même, mais m'occuper du scénario et mettre sur image les émotions que l'on trouve dans le livre. Dans le livre, c'est un livre cosmopolite, le dernier est terminé, il parle du monde entier, il nous fait voyager un peu partout, donc pour un film ce sera pas tout simple, mais ce sera alors d'autant plus virevoltant et passionnant.
Ce contraste entre l'homme d'État et l'écrivain foisonnant, ça veut dire quoi? C'est une digue qui a cédé?
Mais l'homme d'État, dans les dernières années, c'était un ministre des Affaires étrangères et un président de la Confédération, puis de l'OSCE également, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Et c'est parti dans tous les sens aussi. Il y avait énormément de voyages, énormément de contacts, énormément d'émotions, énormément d'images emmagasinées. Je crois qu'il y a là aussi quand même un lien avec la vie actuelle. Je ne crois pas que j'aurais écrit de la même manière si je n'avais pas vécu toutes ces de vie. Même si pendant des années et même avant la carrière politique, j'aimais déjà écrire, il y a au fond toute la profondeur des expériences qui font qu'un homme est ce qu'il est.
Mais votre dernier roman, dans le choix de vos personnages, montre que vous avez choisi une toute autre voie que d'écrire les dessous de cette politique auquel vous avez assisté aux premières loges. Pourquoi ne pas vous être plus inspiré de cette histoire mondiale telle que vous l'avez vécue?
Bon, quand j'ai arrêté, il y a un peu plus d'une année et demie maintenant, j'ai ressenti le besoin de raconter justement les autres moments, pas les moments officiels, les rencontres officielles, formelles, et c'est pourquoi j'ai écrit le premier livre, Enfance de Terre, d'ailleurs très rapidement, en 14 jours et 14 nuits, pratiquement sans interruption, et c'était les rencontres avec les êtres les plus faibles, les enfants, les jeunes femmes qui étaient dans les régions les pires, et ça, je pensais que c'était nécessaire de pouvoir le faire avec la totale liberté, donc plus avec le manteau de la collégialité gouvernementale. Pour le reste, j'ai accepté de parler, de répondre à beaucoup de questions dans un recueil qui a été écrit par José Ribaud sur mes valeurs en politique, mais je suis vraiment attiré par autre chose. Je veux sortir de cette période, utiliser tout ce que j'en ai ressenti pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Donc je suis dans une autre phase de la vie et j'aimerais la partager avec des lectrices et des lecteurs sans parler toujours de mon passé, mais de notre passé, et de notre passé qui d'ailleurs a beaucoup de résonance sur notre vie actuelle. Dans le dernier livre, Terminé, par exemple, on a un passage sur les problèmes des exportations d'armes, en particulier dans le cadre de la guerre du Biafra, mais ça a évidemment un impact, et ça a eu déjà un impact sur notre vie actuelle et nos décisions actuelles.
Est-ce que vous distillez un peu de vous dans les personnages de votre saga? Est-ce que le lecteur, en lisant attentivement vos ouvrages, dont le dernier, Terminé, va pouvoir mieux vous connaître, Didier Burkhalter?
Je crois qu'il y a, dans la création d'une comédie humaine, donc d'une série de personnages, il y en a beaucoup, il y en a plus de 40 dans Mère porteuse et Terminée, les deux romans historiques qui viennent de sortir, et bien dans ces deux romans historiques, on trouve beaucoup de personnages qui ont des petits bouts de moi-même, bien sûr, parce que lorsque j'imagine ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient dire, je pense aussi en moi-même ce qui pourrait être juste ou fort de faire. Parfois, je prends des personnages qui ne me ressemblent pas du tout, mais qui porte mes craintes, qui porte ce que je ne voudrais pas être. C'est le cas de Pancrazio dans le livre Terminé, ce jeune homme qui naît au début du XXe siècle et qui se retrouve évidemment en adolescent, en pleine période de montée du fascisme dans la vallée du Pô en Italie. Et je me suis demandé comment j'aurais réagi si j'avais été à sa place. Donc il y a quelque part aussi une partie de soi-même positionnée ou conceptualisée dans un autre contexte.
Votre prochain ouvrage, donc le dernier tome de la trilogie, aura pour décor le ciel. Alors on imagine volontiers un récit plus métaphysique. À quoi il faut s'attendre?
On verra bien. Donc pour le moment, les idées, je les macère un petit peu, je les laisse monter, je les laisse prendre leur maturité, mais c'est encore pas un texte, c'est que des idées. Et je prends un peu plus de temps. Je pense que je vais aussi un petit peu voyager pour aller voir certains endroits qui pourraient être des éléments d'inspiration. Et tout cela est encore ouvert. découvert après 4 livres en une année et demie, il est pour moi maintenant nécessaire de prendre un peu de temps, de recul, avant d'éventuellement écrire ce troisième tome. Mais j'ai vraiment très envie de le faire parce que j'aimerais terminer toute cette histoire qui a comme fil rouge le XXe siècle, depuis la fin du XIXe jusqu'au début du XXIe. On va couvrir toute cette période par un personnage qui est aussi en quelque sorte le fil rouge, le personnage d'Enor, qui naît en fait juste à la fin du XIXe siècle et qui va terminer sa vie juste au début du XXIe. Il aura touché les trois siècles. J'aimerais bien terminer en effet cette trilogie par un nouveau livre. Mais on verra, c'est l'avenir qui le dira.
Vous avez fait part de ce combat que vous menez contre la maladie, contre le cancer. Est-ce qu'il aura un rôle plus apparent dans ce dernier ouvrage, Didier Burkhalter?
J'en sais rien. Pour le moment, je suis encore une fois aux réflexions, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ouvrage terminé, qui paraît ces jours, eh bien, en effet, il y a des personnages qui doivent se battre également contre la maladie. Et il y a un passage qui est sorti de moi. Vraisemblablement, il ne serait pas sorti de la même manière si la vie avait été différente au moment où j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre dans les derniers mois, donc à peu près fin de l'été jusqu'au début de l'hiver, ou l'hiver du mois de janvier. Je crois que c'était lié un peu à cette période de ma vie. Les livres ont quelque part quelque chose aussi en lien avec l'actualité que l'on vit. Même s'ils sont plus fortement imprégnés de toute notre expérience de vie, ils sont aussi touchés par ce que l'on vit au moment même où l'on écrit. Alors pour le prochain, on verra. Mais pour celui-là, oui, il y avait déjà quelque chose qui a été un peu changé par rapport à ce que j'aurais écrit il y a quelques mois.
Est-ce que cette épreuve rend votre démarche d'écrivain encore plus nécessaire?
Non, je souhaitais toujours écrire des livres. Je suis un passionné des livres. Je trouve que c'est magnifique. J'aime bien d'ailleurs voir le livre physique sortir de l'imprimerie, sentir le goût du papier. J'écris sur un écran, mais j'apprécie surtout de voir le livre arriver et puis de le tenir dans les mains. Je crois que c'est quelque chose de merveilleux. Je sais d'ailleurs que c'est aussi un sentiment qui est beaucoup partagé par les lectrices et les lecteurs. Je suis content d'ailleurs de partager ce sentiment-là avec eux. Et j'ai besoin de ce contact avec les livres. Donc, les différentes expériences de vie ne font que conforter quelque chose qui était déjà là.
Vous avez tourné la page du Conseil fédéral. Maintenant que vous êtes auteur et que vous avez un lien avec vos lecteurs, vous continuez la conversation avec vos concitoyens sous cette forme-là. Quels sont les retours qui vous ont le plus touché jusqu'à présent?
C'était beaucoup de choses. Mais pour prendre un exemple, j'étais dans une rencontre avec des lectrices et des lecteurs sur, comme souvent, la question de la reconversion qui intéresse. En l'occurrence, c'était en Suisse allemande récemment pour les livres qui ont déjà été traduits en allemand, c'est-à-dire en France de Terre et là où lac et montagne se parlent. Et une dame m'a dit, en me voyant, oh, c'est dommage que vous avez quitté la politique, etc. Et puis on a parlé des livres, j'ai présenté la démarche, j'ai fait quelques lectures, on a parlé, on a discuté très spontanément. Puis après, elle est revenue vers moi, puis elle m'a dit, oh, je suis vraiment content qu'on a gagné un écrivain. Oui, c'est joli. Ça m'a montré que, je crois, ça passe maintenant. Cette compréhension qu'il y a dans la vie des phases, qu'on n'est pas obligé d'être un ancien avec une étiquette, mais qu'on peut revenir à un nouveau, avec une nouvelle vie, sans étiquette formelle, sans fonction, en étant simplement soi-même, un être humain qui a envie de faire des choses et qui a envie de les partager de temps à autre avec le public.
Mais votre statut d'ancien conseiller fédéral vous a aidé aussi à vous propulser, à avoir une audience d'entrée de jeu?
Ça, certainement, bien sûr. Surtout que l'intérêt de la reconversion était assez grand. Donc cet aspect-là, pas seulement le fait d'avoir été conseiller fédéral, mais d'être la personne que je suis avec ses propres sentiments et sa manière d'aborder la vie. Ça, je pense que ça peut intéresser un peu. D'ailleurs, chaque personne en soi a sa manière d'aborder la vie et c'est toujours intéressant. Donc, chaque personne est importante.
Didier Burkhalter, auteur de Terre minée, son quatrième livre, disponible désormais en librairie. Un entretien enregistré ce mercredi matin est disponible tout à l'heure sur nos sites internet rjbrtn et rfj.ch.
Place publique.